Père Céleste, nous voulons nous tourner vers toi. Nous te disons merci pour ce temps de culte, ce temps d'adoration, ce temps de louange. Nous avons pu, Seigneur, te dire ce qu'il y a sur nos cœurs, toute la joie, tout le bonheur, tout le plaisir d'être tes enfants et aussi le privilège que cela est pour nous. Seigneur, merci du Père que tu es et merci parce que tu es aussi le Père qui nourrit tes enfants. Tu les nourris, tu les conduis, tu les instruis. Tu ne les laisses pas orphelins, tu ne les laisses pas livrés à la nature, mais tu leur donnes ce dont ils ont besoin pour vivre sur cette terre et pour marcher vers l'éternité. Seigneur, nous voulons maintenant ouvrir ta parole, nous voulons maintenant méditer sur ce que nous enseigne ta parole. Nous te demandons vraiment que ton Saint-Esprit maintenant nous éclaire, nous dirige, nous conduise, qu'il prenne possession de ces instants. Et que nous puissions vraiment, Seigneur, être à ton écoute et que tu nous aides surtout à en tirer des conséquences pour nos vies concrètes, pour nos vies quotidiennes. Nous voulons être des disciples, Seigneur. Fais de nous encore les disciples qui te plaisent ce matin et que vraiment, seule ta gloire soit élevée dans ces instants de la parole. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors, nous continuons dans l'enseignement que nous avons entamé sur le monde spirituel. Alors, la dernière fois, nous avions vu des éléments un peu plus concrets sur ce que nous pourrions ou sur ce que nous aurions à faire face à une manifestation démoniaque. Donc, nous avions vu quelques principes. Il y a un aspect très frustrant à cet enseignement. Il faut bien se dire qu'on ne fait que survoler à des années-lumière de tout ce qu'il faudrait dire. Mais voilà, on a vu quand même quelques éléments importants à avoir en tête, puisque c'est quand même l'objectif, c'est qu'on ait en main les enseignements, les principes bibliques importants à connaître par rapport au monde spirituel. On ne va pas dans les détails, mais vous vous souvenez de ce que nous avons vu la dernière fois. Et pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui n'étaient pas là, eh bien, vous pourrez en son temps réécouter ces enseignements-là sur le site internet. Alors, je vais maintenant reprendre dans la continuité de ce qu'on avait dit. On avait parlé finalement de comment est-ce qu'une personne peut être amenée à la liberté lorsqu'il y a dans sa vie des emprises démoniaques. Et je voudrais commencer aujourd'hui en insistant sur la notion de délivrance. En fait, très souvent, lorsqu'on parle de la délivrance dans nos milieux, on a juste comme idée qu'une personne justement soit libérée de la présence de démons dans sa vie, d'emprise, de liens, d'oppression démoniaque dans sa vie. Mais en fait, il faut se dire que bibliquement parlant, la délivrance est beaucoup plus que ça. La délivrance, c'est pas simplement le fait que, ben voilà, je vis, il n'y a pas d'oppression démoniaque dans ma vie, je n'ai pas d'un démon qui habite en moi, je n'ai pas de, voilà. La délivrance, c'est plus que ça. La délivrance, dans la pensée de Dieu, c'est vraiment un état spirituel, premièrement, un état spirituel où l'ennemi n'a plus d'emprise ou d'ascendant sur une personne, puisque vous avez vu que les personnes, les démoniaques dans les évangiles, ce sont des gens sur lesquels l'ennemi a emprise. Il a emprise soit sur leur personne tout entière, soit sur des domaines de leur vie. C'est important de se dire aussi ça. Il y a des gens qui sont parfaitement normaux, ils sont comme tout le monde, mais il y a des domaines de leur vie qui sont tenus par le diable. Et donc, l'état spirituel dans lequel l'ennemi n'a plus d'emprise, n'a plus d'ascendant sur une personne, c'est un rétablissement de l'autorité du Seigneur sur notre personne. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'il n'y a pas de démon, ou il n'y a pas de quelque chose de satanique en nous, mais c'est vraiment que Dieu est pleine seigneurie en nous, que Dieu soit seigneur de nos vies, qu'il n'y ait pas d'autre seigneurie dans notre vie, que nous appartenions pleinement à Dieu, et que nous soyons libres de toute emprise qui ne vient pas de Dieu, de toute emprise qui pourrait tenir nos vies qui ne vient pas de Dieu. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc la délivrance, la finalité, c'est vraiment la liberté spirituelle, d'être pleinement libre spirituellement, d'être libre de tout lien, de toute emprise qui nous empêcherait de pleinement marcher avec le Seigneur. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a des influences démoniaques dans nos vies, en général, ça a pour conséquence que nous n'arrivons pas à avancer avec le Seigneur. Nous n'arrivons pas à pleinement lui plaire, nous n'arrivons pas à lui obéir, nous n'arrivons pas à vivre dans son plan parce que l'ennemi tient quelque chose dans nos vies. Donc Dieu veut que nous soyons libres, libres de tout ce qui n'est pas de lui, pour lui appartenir pleinement et pour pouvoir pleinement vivre le chemin qu'il met devant nous. Que nous puissions pleinement nous soumettre à la parole, que nous puissions être des chrétiens qui obéissent à la parole, que nous puissions pleinement avoir notre vie de prière, que nous puissions avoir la liberté contre certains restes familiaux. Il y a parfois des restes familiaux qui nous suivent, des bagages familiaux qui nous suivent. Eh bien, Dieu veut qu'on en soit libre. Dieu veut que l'on soit libre dans notre mentalité, de tout mensonge de l'ennemi qui nous empêcherait de marcher avec le Seigneur et que nous puissions être libres aussi de marcher dans la sanctification. Puisque le travail démoniaque, c'est aussi de nous empêcher de pleinement vivre dans la sanctification, de pleinement obéir à Dieu. Souvent, l'œuvre démoniaque, elle est attachée aussi au péché. Soit c'est le péché qui ouvre la porte, soit les démons aussi nous poussent à vivre dans le péché. Ils nous souillent. Et Dieu veut qu'on soit libre aussi de vivre dans la sanctification. Alors, je rappelle aussi que tous les problèmes spirituels n'ont pas une origine démoniaque, c'est évident. Hein, là, on dit ça parce qu'on parle de ça, mais il n'y a pas que ça non plus. Et donc, la délivrance n'est pas seulement l'absence d'action démoniaque, mais c'est la pleine liberté en Christ. C'est être pleinement libre en Jésus-Christ. Libre pour Christ, libre pour servir Dieu, libre pour honorer Dieu, libre pour le servir. Et une chose très importante, c'est de vraiment se dire que c'est le but de Dieu pour nous. Et quand je dis pour nous ici, je ne parle pas seulement de nous, les êtres humains, mais nous aussi les chrétiens. Nous aussi les chrétiens, Dieu veut que nous soyons libres. Et vous avez déjà entendu, c'est déjà des choses qui ont été beaucoup dites, c'est que dans la parole de Dieu, être libre, ce n'est pas faire ce qu'on veut. Être libre, c'est être sans entrave pour plaire à Dieu. La liberté chrétienne, Calvin et Luther disaient que c'était le cœur de la foi chrétienne, c'était la liberté. Alors la liberté, c'est aussi la liberté d'obéir à Dieu, la liberté de le suivre. Dieu veut nous libérer de tout joug étranger, de tout lien, de tout obstacle du diable qui nous empêcherait d'avancer et de croître dans les chemins du Seigneur. La liberté vise à notre pleine appartenance à Dieu et notre totale mise à la disposition de sa volonté. Lorsqu'on est libre, on peut pleinement être à la disposition de Dieu pour faire sa volonté. Cette liberté en Christ, c'est un acquis que nous avons à cause de l'œuvre de la croix. Nous sommes libres. Donc, quand on dit qu'on est racheté, c'est un effet de l'œuvre de la croix. On ne doit pas acheter la liberté. C'est Jésus qui l'a fait une fois pour toutes à la croix. Il nous a rachetés. Il nous a fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Mais parfois, dans nos vies concrètes, parfois, il reste encore des domaines dans lesquels nous devons travailler, entre guillemets, pour que cette liberté puisse se manifester, pour qu'elle puisse se concrétiser. Nous sommes libres en Christ, ça c'est notre statut, c'est notre identité en Christ. Et maintenant, dans le concret, parfois, il y a des combats, entre guillemets, à mener par la puissance de Dieu pour être pleinement libre. Et je voudrais vraiment dire que quand on parle de liens démoniaques, ça peut être parfois très insidieux. C'est parfois très insidieux. Ce ne sont pas des choses qui sont forcément visibles ou extraordinaires, mais ce sont des domaines dans lesquels nous sentons que nous n'avons pas la liberté de nous livrer à Dieu parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas de Dieu qui est à l'œuvre. Totale liberté, c'est le but de Dieu pour nous. La liberté par rapport au péché, bon ça c'est, on le sait, c'est la lutte contre le péché, voilà, on en reparlera. La liberté par rapport au diable et à ses démons, c'est-à-dire que nous soyons libres, bien évidemment, de tout démon qui habiterait notre personne, mais aussi, on l'avait vu et on l'avait dit, de toute influence démoniaque. Rappelez-vous qu'on a parlé aussi du fait qu'il y a des démons qui sont des démons visiteurs. Ils n'habitent pas dans la personne. Ils viennent juste la déranger à des moments précis, dans des domaines précis. Ils viennent mettre le boxon et puis ils s'en vont. Donc, on soit libre de ça aussi. Et Dieu veut aussi que nous soyons pleinement libres par rapport à la mentalité du monde. Vous savez que, et j'y viendrai après, vous savez que le diable est appelé le prince de ce monde, le monde dans lequel nous vivons. Alors ici, ce n'est pas le monde créé, mais c'est le monde en tant que mentalité. La façon de penser de ce monde, du siècle présent, eh bien c'est le diable qui dirige cette mentalité. Et donc, Dieu veut aussi qu'on soit libre par rapport à ça, que nous n'ayons plus dans nos têtes des choses qui appartiennent à la mentalité du monde et qui nous empêchent d'être libres parfois. Et ça, on l'a vu, mais dans la Bible, c'est extraordinaire de voir la puissance de la pensée. La pensée, le diable tient nos vies par la pensée. On avait déjà parlé notamment d'un verset qui nous dit dans Hébreux que le diable tient des hommes et des femmes par la peur de la mort, la crainte de la mort. Et donc, en fait, c'est juste une pensée dans la tête. Ce n'est rien d'autre. Mais il tient des vies comme ça. Il veut que nous soyons libres de l'influence de tout esprit mauvais qui trouble notre paix. Parfois, ça peut arriver. Il veut que nous soyons libres de tout joug démoniaque qui entrave notre vie spirituelle, qui nous empêche de servir. Parfois, il y a des gens, ils ont des jougs comme ça, pour lire la Bible, pour prier, pour servir. Il y a quelque chose qui les bloque. Dieu veut que nous soyons libres de l'influence de liens qui nous tiennent dans des péchés spécifiques. On avait vu la semaine passée que certains serviteurs de Dieu disent que quand ils faisaient des délivrances, souvent les démons portaient le nom de péché spécifique. C'est leur témoignage. Et donc, ça veut dire que parfois aussi, il y a des esprits qui nous tiennent à des péchés spécifiques, qui sont en lien avec des péchés spécifiques. On avait parlé, on avait dit, oui, un esprit de colère. On a parlé d'esprit de blasphème, voilà. Donc il y a parfois des esprits qui ont une influence sur un domaine particulier de notre marche avec le Seigneur. Dieu veut que nous soyons libres des mensonges que l'ennemi distille dans nos têtes. Et ça, vraiment, je voudrais insister, c'est la principale arme de l'ennemi, c'est de mettre des pensées dans nos têtes, c'est des mensonges. Alors, on peut avoir des mensonges du genre « tu vaux rien, t'as pas de valeur, Dieu ne te pardonnera jamais », ce genre de choses, des mensonges qu'il met dans nos têtes. Mais on peut aussi avoir des mensonges qui sont des mensonges liés à notre vie. Parfois, l'ennemi nous tient par des mensonges de banalisation. L'ennemi va nous dire « tu sais... c'est pas si grave, si tu fais ça, c'est pas la fin du monde, t'en fais pas. » Donc c'est des mensonges qu'il y a dans notre tête, et Dieu veut qu'on soit libre des mensonges aussi. Dieu veut que nous soyons libres de l'influence du diable dans nos vies. Et je voudrais rappeler, et c'est extrêmement important, vous pourrez relire Luc 13, 10 à 18, qu'il y a certains problèmes physiques et mentaux qui ont une origine spirituelle. Donc, Je sais qu'il y a eu des dérives dans le monde chrétien où on disait que toutes les maladies, à chaque fois, on disait « oui, ben c'est un démon ou quoi ». C'est pas vrai, mais le texte biblique est sans appel. Il y a aussi des maladies mentales, des maladies physiques qui sont causées par des démons. Vous connaissez par exemple l'esprit qui rend muet, on avait vu. Et là, rappelez-vous le texte de Luc chapitre 13, de cette femme qui était courbée et qui ne pouvait pas se redresser. Vous vous souvenez de ça? Elle était infirme depuis 18 ans, courbée et ne pouvait pas se redresser. Et Jésus dit, Jésus lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et au verset 15, il dit, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ?» Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Donc c'est quand même, c'est un texte intéressant. Ça veut dire qu'elle avait une maladie physique et que les gens la voyaient et se disaient « Oh là là, elle est malade, oh là là, elle est malade, oh là là, elle est malade » et que les gens, ça ne leur venait même pas à l'esprit qu'il y avait une origine spirituelle. Et pendant 18 ans, imaginez-vous, peut-être tous les rabbins ou quoi qui ont rencontré cette femme-là et qui ont peut-être, je ne sais pas moi, prié pour elle ou quoi, Il pensait que c'était voilà, une bête maladie qui a eu origine physique, alors que c'était une maladie qui avait une origine spirituelle. C'était un démon qui tenait cette... le diable qui tenait cette femme-là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rester vigilant par rapport à ça. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa. La majorité des maladies sont des maladies qui viennent de notre corps, qui viennent des dysfonctionnements de notre corps. Mais il existe aussi des maladies qui ont une origine spirituelle, et nous devons, rappel encore, avoir la puissance du Saint-Esprit pour voir clair, pour voir derrière l'apparence et pour voir que là, ce n'est pas juste quelque chose de physique. Le chrétien libre, c'est un chrétien qui a une pensée renouvelée par la parole de Dieu. Encore une fois, si notre tête est remplie de mensonges que le diable met en nous, nous ne sommes pas libres. Le chrétien libre, c'est un chrétien qui a une vision spirituelle du monde. Donc ça, c'est quand même l'objectif premier de cet enseignement, c'est que nous ayons tous une vision du monde qui intègre le monde spirituel. Et rappelez-vous, le tout premier texte qu'on a lu en octobre, c'est ce texte où le serviteur du prophète ne voit pas l'armée, et où le prophète prie et dit « Ouvre-lui les yeux pour qu'il voit, et il voit toute cette armée » du Seigneur qui est avec eux. Donc l'idée, c'est que tous nous ayons une vision spirituelle du monde, que nous ne vivions pas comme si le monde s'arrêtait à de la chair, du bois, des maisons, des voitures. Il y a un monde spirituel qui nous entoure. Et donc c'est aussi un élément de liberté quand nous ne sommes plus leurrés. Quand on est un chrétien qui n'est pas leurré et qui sait qu'il y a autre chose derrière, bien, on est aussi libre. Et c'est un chrétien aussi qui, par la puissance du Saint-Esprit, peut discerner les actions démoniaques. Encore une fois, je ne vais pas redire tout ce qu'on a dit avant, mais elles sont extrêmement insidieuses, les actions démoniaques. Elles se cachent très bien. Et le chrétien libre aussi, c'est un chrétien qui est en mesure de croître spirituellement, qui est en mesure de marcher à la suite du Seigneur sans entrave, sans rien qui l'empêche d'avancer. C'est un chrétien aussi qui est en mesure d'expérimenter la joie et la paix du Seigneur. Et vous savez que le diable ne nous veut pas du bien. Et lorsqu'il a une emprise sur nos vies, il nous arrache la joie et la paix. Il nous arrache la joie et la paix. Et on devient des chrétiens, on peut tous être tristes, c'est pas le problème, mais parfois, c'est vraiment, il nous empêche de vivre la joie du Seigneur, la paix du Seigneur. Et il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, parce qu'il y a une présence démoniaque, et Dieu veut qu'on puisse expérimenter sans entrave la joie et la paix. Que nous puissions expérimenter toutes les bénédictions du Seigneur aussi. Il y a des bénédictions que Dieu veut nous envoyer, et Dieu veut qu'on puisse les expérimenter pleinement et sans aucune limite. Alors, j'ouvre une parenthèse aussi. C'est aussi le chrétien libre, c'est aussi un chrétien qui est libre par rapport à tous les héritages générationnels qu'il peut y avoir dans sa vie. Alors ici, je ne suis pas en train de parler du péché des ancêtres. Bien qu'il y a tout un débat là-dessus dans la Bible, on pourrait en parler pendant plus longtemps, mais ici je parle réellement d'héritages générationnels qui parfois peuvent tenir nos vies, c'est-à-dire de choses qui sont dans notre famille et qui peuvent nous atteindre. Je vais donner un exemple concret, mais je sais qu'il y a des gens dans la salle qui savent de quoi je parle. Par exemple, il y a des personnes qui naissent avec des dons, par exemple des dons de divination. Ce sont des gens, ils ne le font pas exprès, ils sont nés comme ça, avec une capacité qui est une capacité de divination. D'accord ? Et donc vous avez des gens comme ça, je lisais un témoignage d'un gars qui disait, en fait, moi je savais connaître l'avenir. Il n'a rien fait, il est né comme ça. Et je dis, c'est pas en continu, mais il avait la capacité de connaître l'avenir. il y a des gens comme ça qui ont des capacités un peu surnaturelles dont ils ne connaissent pas l'origine et qui, avec lesquels ils sont nés, ça peut avoir pour origine un héritage familial. Quelqu'un dans la famille qui a vécu dans l'occultisme et les liens du sang sont très forts, hein, vous savez. Le sang peut faire passer beaucoup de choses. Hein. Et parfois, ben voilà, sans le faire exprès, il y a des choses qui descendent jusqu'à nous. Et donc, il faut parfois pouvoir renoncer à certains héritages générationnels. Et parfois, ça demande une démarche de prière spécifique. Quelqu'un qui dit, voilà, moi j'ai un don spécifique et qui doit vraiment, à un moment donné, avoir un moment de prière pour renoncer au nom de Jésus, renoncer à cet héritage qui vient d'ailleurs et qu'il ne veut pas garder dans sa vie. Okay ? Il y a aussi l'exemple de pacte ou d'alliance aussi. Je suis désolé, ça paraît vraiment tiré par les cheveux, mais c'est la réalité vraie. Hein. Il y a aussi des gens qui font des alliances. Avec le diable, tout simplement. Et il y a des gens, parfois, quand ils font ces alliances-là, qui engagent leur descendance, en fait. Parce que les alliances, parfois, se font avec le sang, on se taillade les veines, tout le bazar. Et donc, parfois, il y a des gens, quand ils font ça, ils engagent leur descendance avec eux, et parfois, des personnes comme ça qui naissent, et en fait, il y a un héritage qui est là, et là, il faut pouvoir y renoncer. Vous avez parfois des choses bizarres. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre tout comme ça, hein, on se comprend, hein, mais ça veut dire qu'il faut être attentif. Hein, vous avez des gens comme ça, dans toute leur lignée, à chaque génération, il y a des suicidés. Ma grand-mère s'est suicidée, mon oncle s'est suicidé, et voilà, à un moment donné, il faut se poser des questions. Voilà. Et donc, il y a aussi toute la notion de ces pactes démoniaques et de ces influences sataniques aussi qu'il faut pouvoir, auxquelles il faut pouvoir renoncer, d'alliances qui ont été faites pour plusieurs générations. Et donc, c'est important aussi qu'on soit libre de ça. Alors, je sais qu'il y a des excès par rapport à ça, puisqu'il y a des gens qui disent qu'il faut confesser tous les péchés de tes ancêtres que tu ne connais même pas. Tu ne sais même pas ce qu'ils ont fait, mais tu dois quand même tout... voilà. Ce n'est pas de ça que je parle. Là, je parle vraiment de choses très spécifiques et qui peuvent se voir. Et c'est aussi important, et c'est pour ça aussi, moi je crois que Dieu a aussi institué le baptême aussi pour que ce soit aussi un moment qui scelle un passage... et qui aussi confesse. C'est quand on confesse aussi quelque chose par le baptême, on confesse aussi qu'il y a là quelque chose qui meurt chez nous et qu'il y a quelque chose qui s'en va qu'on est à quelque chose de nouveau. Donc voilà. Mais comme je dis, parfois ça demande aussi la prière et il faut vraiment être attentif à ça. 1 Thessaloniciens 5:23, c'est la plus belle bénédiction que je trouve de la Bible. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Ça, c'est notre chemin de vie. Nous prions pour que Dieu nous sanctifie tout entier, pour que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit irrépréhensible au jour où Jésus-Christ apparaîtra. Que nous soyons libres de toute emprise et que nous soyons trouvés dans une vie de sanctification qui implique tout notre être pour le jour du Seigneur. Et c'est la finalité de Dieu avec nous, c'est que nous puissions nous inscrire dans cette dynamique-là. Les finalités de la délivrance aussi, c'est un beau passage aussi qu'il y a dans Marc 16, verset 9, où il est dit « Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. » Et Luc 8, 1 à 3, où il est dit « Ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Chouza, entendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. » C'est extraordinaire de se dire que Jésus, pendant son ministère, Luc 8, pendant sa vie sur terre, et au moment de la résurrection, il était accompagné de femmes, là c'est des femmes, mais ça aurait pu être des hommes, donc qui avaient été libérées de démons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, ça montre vraiment que la finalité, c'est quoi? C'est que quand on est libre, à un moment donné, de toutes les emprises démoniaques, on va servir Christ. C'est des gens qui, après, servaient Christ, qui ont marché avec Christ jusqu'à la dernière seconde. Elles n'ont pas été libérées pour se tourner les pouces, mais elles ont vécu une libération, et elles étaient avec Jésus, elles marchaient avec Jésus, et elles étaient là. C'est un témoignage extraordinaire. Marie de Magdala, Jésus avait chassé 7 démons de chez elle, et elle était libre, et elle servait Dieu. Elle servait Dieu. Et donc, la finalité de notre délivrance, c'est aussi qu'on puisse servir Christ, qu'on soit libre pour servir Christ, pour être là où Dieu nous attend, pour être pleinement appartenant à Dieu, pour témoigner aussi. Parce que c'est aussi un témoignage puissant quand on a été une personne habitée par des démons, et puis que voilà, on peut marcher et servir Dieu. Donc vraiment, Dieu veut une pleine délivrance, mais ce n'est pas une délivrance qui est juste pour dire ben, « c'est bien, maintenant tu es libre », mais c'est maintenant tu es pleinement disposé pour appartenir à Dieu, pour servir Dieu en toute liberté et sans aucune entrave. Et c'est quelque chose qu'il faut dire aux gens, même après les délivrances, il faut leur dire aussi « maintenant, en avant ». Il ne faut pas te reposer sur tes lauriers, il faut aussi, la délivrance que tu as vécue, c'est aussi une délivrance qui te met au service de Christ. Alors, comment résister à Satan? Alors là, j'en parle pourquoi, mais là c'est un peu plus, là on a un peu parlé beaucoup des situations dans lesquelles il y a vraiment une oppression démoniaque, une influence démoniaque, une démonisation, et dans lesquelles il y a un travail particulier à faire pour être spirituellement libre. Mais ici, je vais parler davantage de comment nous, en tant que chrétiens, au quotidien, nous pouvons résister à Satan, puisque Satan continue à essayer d'embrouiller nos vies, même nous, chaque chrétien, dans chacune de nos vies. Et donc, comment résister à Satan? Il y a un verset qui est extraordinaire et qui résume tout ça, on en a déjà parlé la semaine passée, c'est le verset de Jacques, chapitre 4, verset 7, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le texte nous donne donc deux éléments. Premièrement, se soumettre à Dieu. Deuxièmement, résister au diable. Ce sont les deux composantes principales de notre résistance à l'œuvre du diable. Jacques 4, verset 7, « D'une part, nous devons nous soumettre à Dieu. Il ne sert à rien de vouloir résister au diable lorsque nous sommes hors de la protection du Seigneur. » C'est la raison pour laquelle la repentance est importante. Parce que lorsque nous sommes en état de non-repentance, nous sommes vulnérables. Donc, quand on est en état de non-repentance, c'est vraiment... vous avez une caisse remplie de billets et la porte qui est grande ouverte pendant toute la nuit avec les gens qui peuvent rentrer et vous piller. Donc ça veut dire qu'on doit d'abord se soumettre à Dieu. On doit être sous la protection de Dieu et sous la protection du sang de Jésus pour pouvoir bénéficier de la force, la grâce de Dieu pour résister au diable. Premièrement, il faut se soumettre à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, dit le texte. Soumettez-vous à Dieu, c'est donc confesser nos péchés et demander pardon. C'est un acte de soumission à Dieu. C'est de confesser nos péchés et de demander pardon à Dieu. D'être dans un état où nous avons confessé nos péchés, où il n'y a plus de péché conscient qui reste dans nos vies et où nous avons pleinement demandé pardon à Dieu et où, comme dit le texte d'un Jean, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. La confession et la repentance sont des conditions nécessaires pour que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, dit 1 Jean. Ensuite, il nous faut aussi nous détourner de nos péchés. C'est aussi une façon de se soumettre à Dieu. Parce que se soumettre à Dieu, c'est aussi obéir à Dieu. Donc se détourner de ses péchés, c'est aussi se soumettre à Dieu, c'est à un moment donné de dire, voilà, j'ai demandé pardon, mais maintenant je prends une démarche pour me détourner de mes péchés. Alors je sais, que pour certains péchés, c'est particulièrement compliqué. Quand c'est écrit comme ça, ça a l'air très facile, se détourner de ses péchés, amen. Oui, sauf que dans la vie, c'est plus compliqué, puisque il y a certains péchés qui nous collent à la peau, il y a certains péchés qui sont des péchés addictifs, pour lesquels nous avons parfois beaucoup de mal à nous en débarrasser. Alors, comme on dit toujours, en tout cas c'est comme ça que je parle aux gens ou que je me parle à moi-même, c'est lorsque nous sommes face à des péchés qui nous collent à la peau, parfois des addictions aussi, c'est de continuer à nous battre quoi qu'il en soit. En d'autres termes, pour certains péchés, il faut se détourner du péché, il suffit d'un choix à une seconde près. D'accord ? Donc si vous avez volé, ben, se détourner de son péché, c'est ne plus voler, aller rendre ce qu'on a volé, et puis c'est fini. Par contre, lorsqu'on est dans des péchés addictifs, parfois c'est un combat. Et donc, on va réussir aujourd'hui, et puis demain on va tomber, et puis on va se relever, et puis on va recommencer, et alors on se dit, mais Seigneur, je vais jamais y arriver. Eh bien, ce que je conseille, c'est continuons à nous battre. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, et tu continues à te battre jusqu'au jour où Dieu permettra que tu ne tombes plus. Et Dieu nous donne la délivrance aussi, et Dieu fait grâce aussi. Mais nous devons être dans une démarche de toujours continuer sincèrement à demander pardon, de toujours sincèrement poser des actes aussi qui nous aident à être libres. Continuons sans cesse à nous battre pour nous détourner de nos péchés. Il y a des péchés qui sont des péchés dont on sait tous que ce sont des péchés addictifs, qui sont des péchés addictifs par nature, d'accord ? Mais il y a aussi parfois des péchés qui sont des péchés moins visibles et dans lesquels nous retombons toujours et pour lesquels nous devons aussi nous battre. Il y a des péchés de la langue dans lesquels nous tombons toujours et pour lesquels nous devons nous battre. La médisance, le blasphème, voilà, il y a des péchés de il y a toutes sortes de péchés qui parfois nous collent à la peau. Eh bien, nous devons continuer à nous battre, nous devons continuer à nous détourner de nos péchés, nous devons continuer à lutter contre le péché. Et l'éminent frère Benoît que nous avons dans notre église nous avait enseigné un texte de 1 Pierre, pour ceux qui étaient à l'étude biblique, qui parle justement de cette lutte contre le péché. C'était un verset très compliqué, on n'avait pas tout compris à ce qu'il avait dit, mais on a dit amen. Mais non, c'est pas vrai. Non. Et donc, mais c'est en tout cas un verset qui parle de la lutte contre le péché. Et il y a un texte dans Hébreux qui est extraordinaire et qui dit... Enfin non, il n'est pas extraordinaire, il fait peur. Un texte dans Hébreux qui dit « Vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. » Ça veut dire que parfois, la lutte contre le péché, ça peut aller loin. Et Dieu nous invite à lutter jusqu'au sang. Et donc, et parfois, il y a certains péchés pour lesquels c'est un vrai combat acharné. Et tu mets un coup de poing au péché, il t'en remet 3, et puis tu te bats, et puis tu te bats. Mais Dieu nous donne la délivrance. Et parfois aussi, c'est important que nous mettions en place les choses nécessaires pour lutter contre ces péchés-là. Il y a plein de choses qui existent, mais souvent, nous luttons un peu comme ça, à la va-vite. Il y a plein de livres qui existent. Là, on a une bibliothèque ici, dans laquelle il y a plein de livres là-dessus. Il y a plein de techniques, il y a des gens qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner. Et il faut que nous puissions nous battre. Nous devons aussi donc se soumettre à Dieu, c'est aussi vivre dans la sanctification. C'est-à-dire continuer à vivre en se sanctifiant. Dieu ne nous bénit pas dans le péché. Et demander le secours de Dieu face à l'attaque démoniaque. Parfois, se soumettre à Dieu, c'est aussi dire, Seigneur, je n'y arriverai pas par mes propres forces, fortifie-moi. Dieu disait à Caïn, le péché est couché devant ta porte, mais toi, domine sur lui. Parfois, on doit dire, Seigneur, donne-moi la force de dominer. Et se soumettre à Dieu, pour certaines personnes, ça peut aussi vouloir dire mettre de l'ordre dans leur vie. Parfois, il y a des gens qui ont besoin de s'arrêter et de mettre de l'ordre dans leur vie. Parce que c'est le bazar dans leur vie. C'est le bazar sur le plan de leurs relations, c'est le bazar sur le plan de leur vie d'église, c'est le bazar dans leur vie conjugale. Et parfois, il faut s'arrêter, il faut mettre sa vie en ordre aussi pour pouvoir pleinement, et c'est une façon de se soumettre à Dieu. Et l'autre dimension du texte, c'est de résister au diable. Résister au diable. Alors résister au diable, on va le voir après, c'est ne pas lui donner accès. Premièrement, ne pas lui laisser la chance de rentrer. C'est prendre fermement position par la parole et par la prière. Vous connaissez ce texte du diable qui vient tenter Jésus, et Jésus qui répond avec la parole de Dieu. Il s'oppose, il est écrit. Donc il faut prendre position parfois aussi contre les assauts du diable. Par la prière, c'est de prier, et parfois c'est aussi de prendre autorité dans la prière. Vous savez que, on n'a pas beaucoup parlé, mais dans la prière, il y a une dimension de la prière, c'est de demander à Dieu. Seigneur, je te demande de. Seigneur, je te demande de. Seigneur, je te demande de. Là, c'est une prière qui est adressée à Dieu. Et puis, il y a la prière de combat spirituel. Et la prière de combat spirituel, c'est nous prenons autorité sur les esprits impurs. Nous prenons autorité et nous nous positionnons fermement pour ordonner aux esprits impurs d'arrêter de nous troubler. Et puis, il faut aussi résister au péché. Et donc, ça, vous pourrez lire, mais c'est quand même un texte qui est important, c'est en fait, nous devons vivre dans la lumière, nous dirait 1 Jean. Vivre dans la lumière. Vivre dans la lumière, c'est notre objectif à tous, mais c'est vivre dans une vie dans laquelle il n'y a pas de zone d'ombre, de choses qui n'appartiennent pas à Dieu, de péchés qui ont pris toute la place. Vivre dans la lumière, vivre dans une vie dans laquelle nous confessons tout le temps nos péchés, dans laquelle nous demeurons en communion avec Dieu, nous vivons dans la paix de Dieu, nous ne laissons pas le péché entrer, nous vivons dans la vérité, nous vivons dans l'amour, nous vivons dans l'obéissance, vivre dans la lumière. Et c'est important que nous vivions tous dans la lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous devons vivre comme des enfants de la lumière et pas comme des enfants des ténèbres. Et c'est pas compliqué de voir c'est quoi les ténèbres. Les ténèbres, c'est tout ce qu'on voudrait cacher à Dieu et aux autres. Donc quand je ne vis pas dans la lumière, quand il y a des domaines de ma vie que je voudrais cacher à Dieu ou aux autres, dire ça c'est la poubelle de ma vie, ça je ne veux pas que Dieu nous invite à avoir une vie dans laquelle il n'y a pas de cadavre caché. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que j'y suis, hein. Mais je dis que ça doit être notre objectif, doit être notre visée. Il faut fermer les portes. Ça c'est quelque chose d'important aussi. Le texte d'Éphésiens 4 dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Intéressant, on s'adresse ici à des chrétiens. Donc, le chrétien peut donner accès au diable dans sa vie. Ici, il s'agit de la colère, mais on peut penser qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent donner accès au diable. Nous ne devons pas lui donner accès dans nos vies, dans l'Église aussi, nous ne devons pas lui donner accès. Et nous devons poser tous les actes nécessaires pour ne pas qu'il ait la place de s'introduire. La colère peut être un accès, certaines attitudes peuvent laisser place à l'œuvre du diable. Dans nos vies, on a parlé de la colère, on peut parler de tout autre péché, on va le voir après, mais dans l'Église aussi, il y a tout un ensemble de choses qui sont des accès au diable, et nous devons fermement nous opposer à ça. Là, il ne s'agit pas d'être gentil, hein. s'agit pas de dire « Oh non, oh ne rentre pas, s'il te plaît, laisse-moi tranquille, j'ai envie de dormir à mon aise. » Ne lui donne pas accès. Parce que sinon, il va rentrer, il va tout détruire. Et après, il te laisse comme ça, il s'en va. Hein. Et tu dois récolter les dégâts. Autre expression, en fait, dans d'autres textes, ce passage d'Éphésiens 4, il est donné avec l'expression « ne donnez aucune prise au diable ». Ne lui donnez pas de prise. C'est pas mal de dire ça. C'est comme quand on doit porter quelque chose et qu'on dit « ah, j'ai pas de prise, je ne sais pas où mettre mes mains parce que ça me glisse des mains ». Eh bien, ne lui donnez pas de prise, ne donnez pas au diable un endroit de votre vie où il va pouvoir s'accrocher et rentrer. Ne laissez rien que le diable pourra utiliser pour réaliser ses desseins. Ne lui laissez pas d'occasion de s'introduire. Exemple de porte ouverte. Le péché, c'est une porte ouverte. Tout péché est une porte ouverte. Tout péché qu'on a dans nos vies, que l'on laisse dans nos vies, que l'on ne confesse pas, c'est une porte ouverte. C'est quelque chose qui peut laisser accès au diable. Nous devons donc faire attention à ça. Et c'est donc d'où l'importance de la confession et de la repentance. L'importance de confesser nos péchés, de nous repentir, parce que le péché, c'est une porte ouverte. Une autre porte ouverte, c'est de garder rancune. Le manque de pardon est une porte ouverte aussi. Je sais que ça peut paraître un peu... mais la Bible nous en parle beaucoup. Nous devons aussi faire attention à ça. Le manque de pardon ouvre des portes. Et nous devons parfois faire un travail pour être en mesure de fermer ces portes-là. Un autre exemple de porte ouverte, c'est d'ouvrir l'oreille à des mauvaises doctrines ou à des mauvaises paroles. Des fausses doctrines, des faux enseignements, ça ouvre des portes. Mais aussi les mauvaises paroles. Entendre des gens qui blasphèment, ou entendre des gens qui médisent, entendre des gens qui font l'apologie de certaines choses, ce sont aussi des portes ouvertes. Maintenir des relations avec des personnes inadéquates. Il y a des gens qui, dans leur vie, ont des influences démoniaques. Il y a des gens aussi dont il faut se séparer. Parfois, moi, il y a des endroits, des maisons, je ne rentre pas. Hein. Sauf dans un but spirituel, mais je ne rentre pas. Il faut aussi, parfois, mettre faire attention à quel genre de relation on entreprend, avec quel type de gens. On peut prendre, bien évidemment, l'exemple qui vient après, l'exemple de l'occultisme. Quelqu'un qui pratique l'occultisme et qui vous invite, je viens si tu viens pour que je t'annonce Jésus et que je t'aide à te libérer de ça, mais en dehors de ça, je ne rentre pas. Hein. Voilà. Donc il faut aussi faire attention à certaines choses et à fermer les portes dans nos vies. Aussi, on l'a déjà dit, mais malgré tout, c'est important de le dire, la sexualité, c'est une grande porte ouverte. Parce que la sexualité est un espace de communion intime entre des chairs, avec des échanges de muqueuses, des échanges de sang. C'est une grande porte ouverte aux démons. Si vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un qui a une charge démoniaque, il peut vous transmettre des charges démoniaques. Ça, c'est parfaitement clair dans la Bible. Donc il faut faire attention à ça. C'est un acte spirituel. C'est un acte qui a des tenants et des aboutissants spirituels. Et donc il y a des gens, ils savent pas, mais ils ont été à gauche, à droite, en haut, en bas avec tout le monde, et après ils se demandent mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a ça. Ben oui, mais tu as ouvert des portes. Hein. Donc il faut faire extrêmement attention à ça. Dans le monde d'aujourd'hui, le diable tient plein de gens avec ça. Hein. Parce qu'en plus, le problème, c'est que les gens ne se posent pas les questions. On s'en fiche, on vit notre vie, mais c'est une porte ouverte à laquelle il faut faire attention. Il y a même des serviteurs de Dieu qui disent que, premièrement, la sexualité, c'est une alliance. mais qui disent aussi que le mélange des salives aussi, c'est une alliance. Ça veut dire les French kiss dans lesquels on partage la salive, ce sont des alliances. Vous avez l'air crispé tout à coup. Ben oui, mais voilà, c'est pas pour rien que quand on vous dit de ne pas le faire, c'est parce que c'est dangereux aussi. Alors, qu'est-ce que je disais encore par rapport à ça? Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et vous savez que la Bible fait de ces péchés-là des péchés particuliers parce qu'ils sont faits avec notre corps. D'accord? Les autres péchés, dit l'apôtre Paul, ne sont pas des péchés qu'on fait comme ça avec notre corps. Et c'est un accès facile, si vous voulez. Alors, l'occultisme aussi et tous ses dérivés, ce sont des portes ouvertes. Alors, l'occultisme en soi, mais tous les dérivés de l'occultisme aussi. Des films d'horreur à niveau 100 000, des musiques sataniques, ce sont des portes ouvertes aussi. Mais aussi, tout simplement, les environnements démoniaques. Il y a des endroits qui sont voués au péché. Vous savez que c'est une pratique qui est très connue, c'est que quand une église rachète un bâtiment, en général, on fait une session de prière avant d'installer l'église dans le bâtiment. Parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé dans l'église, vous ne savez pas quel genre de pratique on a mis là. Il y a des endroits qui sont voués au péché, il faut faire attention. Je veux dire, voilà, vous allez dans une maison d'occultisme, voilà, vous allez chez une voyante, voilà. Vous allez dans un bar à stripteaseuse, ben voilà, ce sont des endroits qui sont chargés d'esprit impur. Donc, ce sont aussi des portes ouvertes auxquelles il faut faire attention. Mais aussi, c'est documenté. Alors, vous savez que je l'ai déjà dit clairement au début, dans ce domaine-là, tout n'est pas écrit dans la Bible. Donc, on ne sait pas tout justifier bibliquement. L'expérience nous apprend des choses. C'est pour ça que je vous dis, certains serviteurs de Dieu disent que, dans le sens où, voilà, c'est écrit nulle part, mais en tout cas, c'est bien qu'on l'entende pour être vigilant. Et certains serviteurs de Dieu disent aussi qu'une porte ouverte, ce sont des mauvaises impositions des mains. Donc, quand on laisse n'importe qui nous imposer les mains, je ne parle pas de quelqu'un qui prie pour nous, je parle vraiment de l'acte spirituel d'imposition des mains, ce sont aussi des transferts de charge. Vous connaissez que il y a deux textes notamment, dans Josué, il est dit que lorsque Moïse a établi Josué, Josué a reçu un esprit de sagesse. D'accord ? Il nous est dit, en ce qui concerne Timothée, Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Et donc, il y a aussi, par l'acte d'imposition des mains, il y a aussi des transmissions possible, et donc il faut faire attention. C'est pour ça que l'Église, dans les Églises vigilantes, l'Église nomme, l'Église désigne les personnes qui ont à exécuter les impositions des mains, et c'est pas tout le monde qui le fait. Hein? Donc, quand il y a des églises où on dit voilà, priez maintenant les uns pour les autres, imposez-vous les mains les uns aux autres, et donc vous vous retournez sur votre voisin, vous priez pour votre voisin, tout bazar, mais sauf que vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a, et bon, voilà. Ce sont aussi des éléments auxquels il faut être vigilant. Il y en a plein d'autres, des portes ouvertes, mais là c'était des exemples. Alors ce qui favorise une porte ouverte, on va finir par là, ben, nous le savons tous, lorsque nous sommes spirituellement faibles, lorsque nous sommes faibles dans la prière, lorsque nous sommes faibles dans le contact avec la parole de Dieu, dans la vie, la communion fraternelle, nous pouvons aussi ouvrir des portes. Nous sommes plus vulnérables et nous pouvons laisser plus d'emprise à l'ennemi lorsque nous sommes spirituellement refroidis. Et donc, nous devons être vigilants spirituellement. 1 Pierre 5,8, que notre frère Benoît aussi nous a expliqué dans le cadre de l'étude sur 1 Pierre, nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et donc, il faut veiller et il faut résister. Je reviens juste ici pour dire, j'ai oublié de parler aussi d'actes qui sont des actes qui peuvent... ouvrir des portes, ce sont aussi les engagements. Vous savez aussi que les engagements, de par la parole, sont des engagements qui peuvent être entérinés au ciel. Donc il y a parfois des échanges comme ça de paroles qui peuvent avoir un impact. Et donc c'est pour ça qu'on dit toujours aux gens qu'il faut faire attention aux promesses qu'ils font, de ne pas faire de promesses à la légère, de ne pas prendre d'engagement à la légère, parce qu'il y a des engagements qui peuvent être entérinés et qui peuvent avoir valeur. Alors, par rapport à ça, une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut bien distinguer deux choses. Il faut bien distinguer les jugements de Dieu et les ouvertures de portes démoniaques. Il y a des actes que la Bible nous décrit comme étant des actes qui peuvent entraîner un jugement de Dieu, c'est-à-dire un jugement qui vient directement de Dieu. Il y a plein d'exemples. Si on prend l'exemple de Aaron et Myriam qui parlent sur le dos de Moïse et Myriam qui reçoit la lèpre, on a l'exemple de Corée qui suscite la rébellion et il y a tout un peuple qui meurt. On a l'exemple d'Ananias et Saphira. On a l'exemple de 1 Corinthiens 11 où il dit, suite à la prise indigne de la Sainte-Seine, certains d'entre vous sont malades et d'autres sont morts. Donc ça, ce sont des jugements qui viennent de Dieu. Okay. Et il y a à côté de ça les choses qui ouvrent des portes au diable. Là, c'est un peu différent. Okay. Donc je dis ça pour dire que, notamment, il faut faire attention aux deux. Il faut faire attention à ce qui peut entraîner des jugements de Dieu et ce qui ouvre des portes au diable. Alors, pour finir, je vais finir par là. Je réfléchis. Non, c'est trop long. Je vais en finir ici. Ça va ? Voilà. Nous allons prier ensemble. Seigneur, nous te remercions parce que tu es le Dieu qui est notre Père et tu ne veux que nous soyons libres. Et Seigneur, je voudrais te prier ce matin pour que chaque personne dans cette salle, tu nous permettes d'être pleinement libres. Seigneur, libre de toute entrave qui ne vienne pas de toi dans nos vies, de toute entrave démoniaque, de toute oppression démoniaque, je prie pour la pleine liberté de ton peuple ce matin. Nous voulons, Seigneur, ce matin encore nous placer sous l'autorité de Jésus-Christ. Nous voulons encore proclamer l'autorité de la croix, l'autorité du sang de Jésus dans chacune de nos vies, dans chacune de nos âmes, dans chacune de nos esprits, chacun de nos corps. Nous proclamons que nous t'appartenons et que le diable n'a pas de droit dans nos vies. Nous proclamons que le diable n'a pas de droit dans cette église. Et nous ordonnons à tout esprit impur de nous quitter maintenant et de nous laisser pleinement libres pour te servir. Seigneur, je prie pour que chaque personne dans ce lieu aujourd'hui qui lutte, soit avec des influences démoniaques, soit avec des péchés, Seigneur, puisse recevoir une pleine liberté. Et que, Seigneur, tu viennes nous permettre d'être libres de toute chaîne pour te plaire, pour t'honorer, pour te glorifier. Seigneur, fais de nous un peuple mis à part pour toi. Fais de nous un peuple qui t'adore, qui te loue sans contrainte. Fais de nous un peuple qui s'aime, un peuple qui t'obéit, un peuple qui te glorifie. Seigneur, et que nous soyons vraiment ce peuple qui marche à l'écoute de ta voix et qui te plaît en toutes choses. Bénis ton peuple, Seigneur, bénis ton Église et garde-nous en toi. Au nom de Jésus. Amen.